Bonjour et bienvenue à bord de ma mobilette de l'espace sur les routes de la musique. Aujourd'hui, nous allons voyager à l'intérieur d'une chapelle écossaise remplie de mystères, de signes gravés dans la pierre qui posent des énigmes, qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui ont bien fait délirer aussi. Et puisque nous sommes le 1er avril, nous allons dévoiler quelques-unes des impostures aussi grosses que des poissons d'avril qui ont engendré des légendes, des rêves de l'argent, des rêves d'argent, qui ont fait gagner beaucoup d'argent aux vendeurs de rêves et dont un des derniers mystères, et pas des moindres, vient d'être levé il y a à peine 10 ans. Et c'est un mystère musical. Dans cette chapelle, nous irons d'une colline de Jérusalem jusqu'aux hautes vallées chinoises des contreforts de l'Himalaya. Et enfin, nous allons voir que ce livre secret écrit dans la pierre est à la base de rites qui vont influencer et faire émerger en Occident le siècle des Lumières. Roselyne est le nom de cette chapelle.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
How I love to hear the organ in the chapel in the moonlight while we're strolling down the aisle where roses entwine. How I love to hear you whisper in the chapel in the moonlight that the love light in your eyes forever will shine till the roses turn to ashes, till the organ turns to rust. If you never come, I'll still be there till the moonlight turns to dust. How I love to hear the choir in the chapel in the moonlight as they sing, oh, promise me forever be mine. Till the organ turns to rust.
You never come, I'd still be there.
Till the moonlight turns to dust. How I love to hear the choir in the chapel in the moonlight as they sing, oh, promise me forever be mine.
In the chapel in the moonlight.
La chapelle de Roselyne en Écosse est unique dans le monde par sa statuaire et les symboles qui y sont représentés. Elle a été construite par William Sinclair, troisième du nom, héritier d'une famille noble écossaise descendant des chevaliers normands de Sinclair et, selon la légende, liée aux chevaliers du Temple. Le prince William commença par faire des esquisses sur des planches à tracer de bois oriental qu'il donna ensuite à sculpter par des charpentiers qui suivaient les esquisses, sculptures qu'il donna ensuite aux maçons pour servir de modèles afin qu'ils puissent les faire apparaître telles quelles dans la pierre. Et parce qu'il trouvait que les maçons n'avaient pas d'endroit convenable où loger, il leur fit construire la ville de Roselyne, qui est aujourd'hui existante, et donna à chacun une maison et des terres. Il récompensa les maçons suivant leur degré. Ainsi, au maître maçon, il donna jusqu'à 40 livres de salaire annuel et aux autres 10 livres. Mais William Sinclair n'édifie pas seul cette chapelle. Il s'adjoint le service d'un poète écossais, d'un érudit, Gilbert High, qui a passé 20 ans à la cour du roi de France, Charles VII, et qui a beaucoup voyagé vers l'Orient jusqu'aux confins de la Chine. Mais revenons plus d'un siècle auparavant. Un autre William Stuart, ouvrier écossais, vous vous souvenez ? Il répond à l'appel des Templiers pour restaurer les forts de la Terre Sainte contre, non pas de l'argent, mais le statut de chevalier inespéré pour ce fils de drapier épris d'aventure. Et voilà qu'à la chute de Saint-Jean d'Acre, notre ouvrier écossais, initié au grade de chevalier du Temple selon les rites des confréries musulmanes, revient avec des secrets, des écrits, des savoirs qu'il ramène des hautes vallées perses en même temps que deux fleurs inconnues en Europe, la rose et le lilas.
Les chevaliers reviennent, les bras chargés de trésors, d'écrits et de fleurs qu'ils plantent sous la chapelle de Roselyne.
On pourrait dire qu'une civilisation se reconnaît au goût qu'elle porte aux fleurs, à la place que tiennent les fleurs dans la vie quotidienne, dans les rites et les cultes, les mythes et légendes, les thèmes poétiques et les symboles mystiques. Les cerisiers en fleurs du Japon, le lotus de l'Inde et de l'Égypte ancienne, les roses de la Perse, le chrysanthème et la pivoine de la Chine.
Et les plantes parlent, elles nous disent les voyages des hommes.
Si les fleurs se mettaient à parler, où irions-nous ? Et pourtant elles parlent. Les enfants le savent, les poètes le savent, mais les amoureux aussi le savent. Le langage des roses, un simple échange de roses, veut dire bien des choses. Corolle qui s'ouvre, amour qui se découvre. Fleurs épanouies, mon cœur pour la vie. Pétales qui passent, amour qui lasse.
Des messages secrets se cachent aussi dans les pétales des fleurs. Je t'aime un peu, beaucoup.
Bon, c'est tout. Vous aimez les roses ?
Oui. Il en existe pas moins de 25 000 à 30 000 variétés. Chaque variété a son nom, que ce soit celui de l'homme qui l'a sélectionné, ou celui d'une reine, d'une jolie femme, d'un grand guerrier, d'un politique connu. Je puis citer Louis de Funès, la Tour Eiffel.
Et une des roses s'appelle Roselyne. En hommage à Roselyne Bachelot ?
Le prénom Roselyne. Sensibles, elles sont bouillonnantes et à fleur de peau. Un peu bohème, elles ne demandent qu'à danser et chanter.
Roselyne et la chapelle de Roselyne chantent en chœur.
Chante encore.
Et alors, est-ce un hasard si la chapelle de Roselyne s'appelle ainsi ? Pour Roseline, la lignée des roses ?
Ou pour Roselyne ?
Ces écrits ne sont pas à mettre dans toutes les mains. Alors on les enterre, à 11 km d'Édimbourg, dans un endroit appelé Roselyne. Plus d'un siècle plus tard, à cet endroit, William Sinclair va faire édifier la chapelle la plus étonnante qui soit. Un livre de pierre crypté pour l'éternité.
Wall of Kintyre, on me strolling in from the sea. My desire is always to be on Wall of Kintyre. Travel and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mall of Kintyre. My desire is always to be here on Mall of Kintyre.
France Inter. Les routes de la musique. André Manoukian.
La famille Sinclair est depuis 1000 ans l'une des plus grandes familles de la noblesse écossaise. Vous vous souvenez d'Amicalement Vôtre, la série culte de notre jeunesse avec Tony Curtis et Roger Moore. Tony Curtis est Danny Wilde et Roger Moore est Brett Sinclair. Comme si, pour réincarner l'archétype d'un aristocrate, il n'y avait pas mieux que le nom de cette lignée prestigieuse.
André, vous oubliez des Sinclair dans votre liste.
Il faudrait vraiment que je trie et que je classe toutes ces photos.
Tentons d'établir l'arbre généalogique de la famille Sinclair.
Dessine un grand arbre sur une feuille de carton. Fais ensuite le tronc, bien large, avec autant de branches que tu le souhaites.
Dans la famille Sinclair, je demande le grand-père, Brett Sinclair.
Sinclair, c'est vous le coupable. Oh, de quoi vous parlez? Vous allez me dire la vérité d'une manière ou d'une autre.
Dans la famille Sinclair, on a le grand-père, Brett. Je voudrais maintenant la grand-mère.
Bienvenue à l'EHPAD, demeure de Sinclair, maison de retraite médicalisée de plein pied, accueillant 62 résidents.
Bon, on a plein de grand-mères. Au suivant.
Et voilà une petite fille, c'est leur enfant.
Dans la famille Sinclair, je demande à la fille Anne.
Anne, j'ai épousé Dominique, je savais que c'était un charmeur, que c'était un séducteur.
Et là, voilà les parents de l'homme, son mari.
Je ne savais pas.
Mais ce n'est pas toujours facile de savoir où placer les Sinclair sur l'arbre.
Mais non, c'est pas compliqué.
J'accueille maintenant Laure Sinclair.
Laure Sinclair, actrice pornographique vedette des productions Marc Dorcel, arrive et attend d'être placée sur le tronc de l'arbre généalogique.
En 95, à Rennes, au salon érotique, vous voyez des pornostars, disons, qui dansent et vous dites, je veux, c'est mon truc, je veux en faire partie. Vous avez fait combien de films?
15.
En 18 mois?
Oui.
Ah oui, c'est hard.
On n'avait pas dit que la famille Sinclair, c'était une lignée de nobles écossais? Sinclair, le chanteur, prend la parole et nous dit...
Sincèrement, je m'en fous d'une force, hein, pour être honnête.
D'accord, Sinclair, d'accord. Quelque chose à rajouter pour compléter l'arbre généalogique de votre grande famille?
Percé au son de la guerre, entre mon père et ma mère.
Résumons. Dans la famille Sinclair, il y a des nobles écossais, et il y a aussi une journaliste, une actrice porno, une maison de retraite au complet, un chanteur.
Ça te plaît? Ah, moi j'adore.
Il faut tout pour faire un arbre.
Merci à tous. Bonsoir.
La famille Sinclair vient du village normand de Sinclair-sur-Epte, situé entre Vernon et Gisors. Le premier Sinclair arrive en 1057 en Écosse. Il s'appelle William Sinclair. Il se met au service du roi d'Écosse et il sera tué en défendant les frontières écossaises contre les Anglais. Les Sinclair, toujours proches du pouvoir royal écossais, vont donner des évêques, des archevêques et probablement vont se rapprocher de l'ordre du Temple dès sa création à Jérusalem. Plus d'un siècle plus tard, un autre Sinclair, Henri, a pour fiancée Margaret Ramsay, une princesse écossaise à la beauté époustouflante. Sauf qu'elle va attiser le désir du gouverneur anglais John de Seagrave, qui va convaincre Édouard Ier d'Angleterre d'empêcher ce mariage au motif qu'il va encore rapprocher la France et l'Écosse.
Une rébellion progresse.
Qui l'amène?
Un certain William Wallace.
Et voilà 30 000 Anglais qui attaquent les terres de Sinclair. C'est la bataille de Roslin. Seulement 8 000 hommes du côté écossais. Et pourtant, ce sont les Écossais qui viendront à bout des Anglais. Henri Sinclair, désormais appelé Henri le Patriote, épousera la belle Margaret et sera le compagnon d'armes de Robert Bruce et de William Wallace, le héros de Braveheart, incarné par Mel Gibson au cinéma.
Je me nomme William Wallace. Rentrez en Angleterre et faites savoir que les filles d'Écosse et leurs fils ont cessé de vous appartenir. Et que le pays d'Écosse s'est libéré.
Passons maintenant à son petit-fils Henri Sinclair de Roslin. Celui-ci est né en 1345 et il sera aussi un sujet de légende. En effet, c'est un explorateur. Il aurait voyagé vers le Groenland, ça c'est sûr, mais on prétend qu'il aurait été jusqu'en Amérique, bien avant Christophe Colomb. La preuve? Des bas-reliefs dans la chapelle de Roslin, d'épis de maïs et de cactus aloe vera, plantes alors inconnues en Europe. un petit-fils plus tard, et nous voilà arrivés enfin au fondateur de la chapelle de Roslyn, William Sinclair of Roslyn. Sir William était un noble cultivé, il possédait l'une des plus vastes bibliothèques d'Écosse. Il détenait aussi un important scriptorium où l'on recopiait et traduisait des ouvrages venus de toute l'Europe. Le fait est à souligner quand on sait qu'on retrouvera souvent dans la chapelle des thèmes identiques à ceux que l'on peut voir sur les enluminures des livres de l'époque. Passons maintenant au fameux mystère de la chapelle de Roslyn.
Elle a été construite par les Templiers eux-mêmes. Elle doit son nom à la première Roslyn. La chapelle de Roslyn.
Alors nous y voilà. La récompense finale.
Le Saint Graal sous l'ancestrale Roslyn attend.
Pour sa construction en 1441, le meilleur de la maçonnerie écossaise et européenne est engagé, produisant des formes inédites qui vont engendrer des fantasmes qui courent jusqu'à aujourd'hui, le plus célèbre étant Dan Brown et son fameux Da Vinci Code.
Il y a quelqu'un ?
Qu'est-ce qui fait froid ?
Qu'est-ce qui la rend unique, cette chapelle ? Et quelle est la source de tous les mystères que nous allons tâcher de résoudre, un à un, jusqu'au plus beau, un mystère musical ? Tout d'abord, un mur immense contre lequel la chapelle s'adosse se voit identifié comme une représentation du mur des Lamentations. Et voilà qu'on voit dans la chapelle une reproduction du fameux temple de Salomon.
Comment faire une copie du temple de Salomon ?
Alors avant de chercher à tout prix le bouton « copier », il faut dire à votre ordinateur ce que vous avez envie de copier.
On sélectionne les données du temple de Salomon.
Notre quête nous mène là où tout a commencé, sur le mont du temple.
Je fais un clic droit et je fais « copier ».
Ainsi, des copies du temple s'installent en différentes localisations.
Où est-ce que vous avez envie de coller ce que vous avez copié avant ?
Les chevaliers du temple ont collé des éléments du temple de Salomon dans la chapelle de Roslin en Écosse au XVe siècle. Et plus récemment, en 2010, une copie du temple est construite à São Paulo, au Brésil.
Oui, oui. Le nouveau temple de Salomon.
Bonjour à vous tous. Je fais un petit reportage de São Paulo. Et nous sommes devant une grande temple. C'est la copie du temple de Salomon. C'est pas la vérité, c'est pas l'original.
Maintenant qu'on a fait ça, eh bien on a réussi à bien copier et coller.
Alors c'est immense, c'est un énorme parallépipède et c'est un endroit à la fois ultra massif et un peu toc qui se trouve donc dans un quartier populaire de São Paulo.
Une fois que c'est collé, on peut entrer dans la copie du temple.
Il faut d'abord passer par un parking souterrain et puis ensuite ce sont les rayons d'un détecteur de métaux. Il y a un vigile qui te fouille, on t'interdit le téléphone portable et l'appareil photo.
Il y avait ça du temps du roi Salomon ?
C'est un endroit colossal de 10 000 places, hein, 10 000 sièges, avec, dans le fond, un autel énorme surmonté de deux anges aux ailes dorées repliées vers l'avant.
On ressort de la copie et on se demande où le temple va-t-il apparaître encore ?
Il faut quand même faire attention à une chose, on ne peut pas copier et coller les choses n'importe où.
Ils ont gaspillé autant d'argent pour construire ça. Les gens, ils construisent des choses comme ça. C'est l'ambition. Vous savez quoi ? Quand l'argent, il vient, les gens, ils commencent à perdre sa tête. Jésus, il a dit, restez éveillés.
Contrôle Q, quittez.
Le temple de Salomon, cette figure mythique dont la construction est une légende et dont la double destruction va le ranger définitivement au rang de mythe. Le roi David, le grand roi du peuple hébreu aux alentours du Xe siècle avant Jésus-Christ, va faire de Jérusalem sa capitale. Peu avant sa mort, il rassemble du matériel pour la construction du plus grand temple qui soit sur le sommet du mont Moria. Le roi de Tyr, Hiram Ier, pour l'aider à la construction du temple, envoie à Salomon du bois, des architectes, des maçons et surtout un très talentueux artisan nommé Hiram. Cet artisan moule et dresse les deux colonnes à l'entrée du temple qui vont soutenir l'immense chapiteau d'entrée. Deux colonnes qui vont être nommées Jakin et Boaz. Jakin signifie en hébreu « il établit », Boaz signifie en hébreu « la force ». Il établit la force. Voilà ce que signifient ces deux colonnes qui sont à l'entrée du temple de Salomon. On pourrait dire aussi « que la force soit avec toi ».
Je ne sens pas cet endroit. On peut s'en aller.
Venez voir.
Et voilà qu'on trouve, à l'entrée de la chapelle de Roslin, deux colonnes appelées la colonne du maître et la colonne de l'apprenti. La colonne du maître est d'assise carrée. Celle de l'apprenti semble avoir été dessinée sous extasie. Je vous explique, c'était comme si on avait torsadé les tubulures pour les enrouler autour de la colonne à la manière d'une double hélice d'ADN. La légende raconte que un modèle de ce pilier fut envoyé de Rome. À la vue de celui-ci, le maître maçon refusa de travailler sur un tel pilier sans s'être rendu à Rome pour réaliser une inspection précise du pilier. En son absence, un apprenti finit le pilier tel qu'il est aujourd'hui. Et le maître, à son retour, voyant le pilier si superbement achevé, s'enquit de qui l'avait réalisé. Et poussé par la jalousie, il tua l'apprenti.
Stepped out one morning. The ground to be his bed, the sky his awning.
Neon, neon. Blue neon lamp in a midnight country field. Gals around, so you lean on, so much your hugs become holders.
Voilà avec une légende d'un maître qui tue son apprenti, coupable d'avoir voulu aller plus vite que la musique. Une autre légende veut que l'architecte même du temple de Salomon, Hiram, fut lui aussi assassiné, cette fois par trois apprentis trop impatients d'apprendre les secrets de leur art, secrets qu'Hiram ne leur révéla point et qui causa son meurtre. Alors, Roslin est-elle une réplique du fameux temple de Salomon ? Faux. Le grand mur sur lequel s'appuie la chapelle montre juste que l'édifice devait être un ensemble architectural beaucoup plus vaste, destiné à abriter une université, des étudiants, des moines et des savants. Ça s'appelait une collégiale. Or, à la mort de William Sinclair, les travaux s'arrêtèrent faute d'argent et ne resta que le cœur de la chapelle qui est en fait très proche au niveau de la conception, non pas du temple de Salomon, mais de la cathédrale de Glasgow en plus petit.
De nombreuses légendes rôdent autour de la chapelle de Roselyne.
D'aucuns affirment qu'au sein de chambres souterraines cachées sous l'église, giseraient de précieuses reliques, y compris le trésor des Templiers. On dit qu'ils ont possédé de nombreux artefacts religieux de grande valeur, y compris la relique la plus précieuse de toutes, le Saint Graal. Le calice utilisé par Jésus lors de la dernière scène.
Ah ah, il y aurait sous la chapelle de Roselyne, en plus des trésors écrits, le Saint Graal.
Certains pensent que son architecture est couverte de messages codés, qui, une fois déchiffrés, révéleraient le parcours du calice du Christ.
Il faut plonger au cœur de la pierre et lire ses veines pour la décrypter.
Parmi les nombreuses sculptures des murs de l'église, il y a des visages qu'on appelle les hommes verts. Ces déités païennes symbolisent la croissance et la renaissance. Certains sont persuadés que ces étranges visages indiquent que le Saint Graal se trouve bel et bien dans la chapelle.
Quoi ? Des petits bonhommes verts se promènent sur la pierre ?
Des millions de gens du monde entier sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur Terre. Et si c'était vrai ?
Mais ça serait quoi le trésor alors ?
L'homme vert apparaît à plus de 110 endroits différents.
Il représente les plus grands secrets de la nature. C'est à se demander si le Graal n'aurait pas un lien avec ces mystères et la présence de ces hommes verts.
Les chevaliers auraient croisé des extraterrestres en emmenant le Saint Graal en Écosse ?
Les mystérieuses sculptures liées au Saint Graal indiqueraient-elles que le calice utilisé par Jésus lors de la dernière scène était plus qu'un simple verre ?
On le décrit souvent comme une coupe dotée de lumières rouges clignotantes.
Le Saint Graal permettait-il vraiment à Jésus d'entrer en contact avec une force spirituelle ou d'un autre monde ? Si nous trouvions ce calice, aurions-nous la preuve que nous avons des origines extraterrestres ?
Elle est chouette cette légende, non ? Vous en avez une autre à nous raconter, André ?
Deuxième légende de Roselyne, le chapiteau de l'initié. Un des chapiteaux de Roselyne Chapel qui a fait couler beaucoup d'encre encore concerne plus directement la franc-maçonnerie. Il s'agit d'une sculpture représentant un homme à genoux, les yeux bandés, la main sur la Bible, une corde autour du cou, tenue par un autre homme situé derrière lui. Beaucoup y voient une scène du rituel initiatique des francs-maçons, or ceci n'existe pas en 1450. La franc-maçonnerie moderne étant née en 1717 sous l'impulsion d'un pasteur écossais, certes, le pasteur Anderson. En fait, si on se met dans la tête d'un chrétien du 15e siècle, cet homme à genoux dont les yeux sont bandés n'est autre que le Christ outragé et humilié. Il est écrit dans la Bible « Et ils lui bandèrent les yeux et le frappèrent au visage et lui dirent « Prophétise, toi qui es le Christ, qui est celui qui t'a frappé ?» Alors si beaucoup croient voir dans ces symboles l'œuvre des francs-maçons, c'est tout simplement le contraire. Cette chapelle est porteuse des symboles qui vont inspirer la franc-maçonnerie bien plus tard, franc-maçonnerie qui est née en Écosse. Mais c'est quoi la franc-maçonnerie ? La confrérie des bâtisseurs de cathédrales qui va peu à peu passer d'opérative à spéculative. C'est-à-dire que quand toutes les cathédrales vont être construites et qu'elles jalonnent l'Europe, alors les maçons décident qu'il est temps de construire le temple intérieur de l'homme afin qu'il s'améliore selon les règles de la géométrie, de la mesure et de la fraternité. Et le temple détruit de Salomon, qui était le roi sage, devient le symbole de ce qu'il faut reconstruire, mais cette fois-ci à l'intérieur de l'homme.
les routes de la musique. André Manoukian sur France Inter.
Ainsi donc, il est vrai que la tradition cachée des ouvriers écossais, ayant recueilli la sagesse d'Orient des Templiers, se répandit à la mort de l'ordre du Temple de manière secrète dans toute l'Europe. Cette tradition s'appuie sur la Bible, mais aussi sur d'anciens écrits persans, sur la Kabbale juive et les confréries soufis. Et elle va s'écrire sur les pierres des églises, qui sont des livres ouverts grâce à un langage universel encore plus fort que l'écriture, le langage des symboles. Roselyne se trouve à la croisée des chemins. Son bâtisseur, William Sinclair, est d'une longue famille liée au temple. Et les symboles dont il remplit sa chapelle ne vont donner leur secret que des centaines d'années plus tard. Parmi ceux-ci, le plus intrigant concerne la musique et vient à peine d'être résolu par un décrypteur de la Royal Air Force, de surcroît musicien amateur. Les piliers torsadés, les figures de pendus, les deux cavaliers montant sur un seul cheval qui sont l'emblème des Templiers, les épis de maïs qui viendraient d'Amérique mais bien avant Christophe Colomb, tout ça, c'est de la roupie de Sansonnet comparée aux cubes qui émergent des voûtes du plafond. Comme des excroissances de pierre portant chacune une figure géométrique complexe, avec de chaque côté de la voûte un ange musicien qui tient un instrument ou qui désigne une portée. Mais ces cubes sortant de la voûte à la manière d'une figure d'art moderne, que représentent-ils? Après 27 ans de recherche, Thomas Mitchell pense avoir trouvé la clé. Et c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit d'une clé musicale. Mais pas une clé de sol, ni une clé de fa, ni une clé d'ut. Non, une clé de pierre, ou plutôt une clé de son pétrifié, cristallisé dans la pierre. Et pour ça, il a dû faire appel à une science mise au point par un savant allemand. Ernest Chladni, né en 1756 à Wittenberg, est le fondateur de l'acoustique moderne. Un jour, en saupoudrant de sable fin des disques de cuivre dont il fait vibrer les bords avec un archet, il obtient ceci. Mais laissons-le raconter. Qu'on juge de mon étonnement en voyant ce que personne n'avait encore vu. Il apparut une étoile à 10 ou 12 rayons.
Le son voyage dans l'espace et fait vibrer ce qu'il traverse.
Nous parlons toujours à l'intérieur d'un espace et nous entendons des images qui sont le reflet, qui sont l'empreinte, des formes qui délimitent cet espace. En ce moment, je m'approche des micros, c'est-à-dire en fait, je m'approche de votre oreille, je m'approche de votre visage.
Là, le son de la radio fait vibrer vos oreilles. Là, le son du maillet du tailleur de pierre fait chanter la roche.
On va taper sur la pierre, plus le taillant résonne, plus la pierre sera dure. Moins le taillant résonnera, moins la pierre sera dure.
Le son traverse la matière et vibre selon la densité et la fréquence en suivant une équation mathématique.
Petit h de n en fonction de t et p égale sinus de 2π fois fn, la fréquence par
Ernst Chladni nous explique plus clairement avec son expérience.
J'ai devant moi une plaque métallique. Je vais faire vibrer cette plaque grâce à cet archet. En vibrant, la plaque fera vibrer l'air et on va entendre un son. Voilà. Si je passe maintenant l'archet ailleurs, on entend un autre son. Je vais maintenant verser sur la plaque du sable très fin et très léger. La plaque en vibrant chassera le sable de la plaque et on verra que ce sable s'accumule à des endroits. Et ces endroits sont justement des endroits où la plaque ne vibre pas.
Chaque son peut être représenté par une forme géométrique.
Pour chaque figure, on va obtenir de cette manière un son différent.
Ainsi, Ernst Chladni répertorie toutes les figures et établit une sorte de dictionnaire qui traduit les figures géométriques en notes.
Plus les fréquences montent haut, plus les formes sont complexes.
Et quel hasard, quelle coïncidence, nous retrouvons ces formes géométriques dans la nature.
À travers la faune et la flore, on observe très facilement des figures géométriques et symétriques qui ne paraissent pas être issues du fruit du hasard.
Chladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Chladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel, comme les taches sur la tortue ou les modèles tachetés des léopards.
Il y aurait donc une partition de musique sur la carapace de la tortue et aussi dans les taches du léopard et aussi dans mes chaussettes à rayures. Waouh !
Thomas Mitchell s'aperçoit que la plaque de cuivre produit un dessin géométrique différent pour chaque fréquence donnée, pour chaque note qu'il excite. En observant les figures géométriques des cubes de pierre de la voûte de Roslyn, Mitchell trouve des notes de musique. Chaque figure géométrique correspond à une note qui est bien précise puisque on l'obtient avec une certaine vibration. Il reconstitue donc la musique de ces cubes de pierre. Il compose le motet de Roslyn, la chanson de Roslyn inventée 500 ans plus tôt en 1450 et pétrifiée dans la pierre de la voûte sous le regard bienveillant des anges musiciens. Mais où les bâtisseurs de Roslyn ont-ils eu cette connaissance acoustique pour pouvoir faire correspondre des fréquences sonores avec des figures géométriques ? L'indice est caché sous le fameux pilier torsadé qui provoqua le meurtre de l'apprenti par la jalousie du maître. Sous ce pilier, quatre dragons chinois. Que font des dragons chinois dans une chapelle en Écosse en 1450? Eh bien, ils attestent juste qu'un des architectes de Roslyn voyagea jusqu'en Chine et que les Chinois, depuis le temps qu'ils fondent des gongs avec des fils de cuivre, avaient la technique de la vibration du sable. Sous l'excitation de l'archet, la plaque vibre. Le sable se déplace alors depuis les zones de forte vibration vers les zones où la vibration est moins forte, voire nulle. Et c'est ainsi que bien plus tard, cette technique va être employée par les maîtres luthiers vénitiens qui repéraient les défauts de la table d'harmonie d'un violon en faisant vibrer la plaque avec du sable dessus. Le son est de Stradivarius, mais la technique est chinoise.
Sonne comment ces pierres cubiques de la chapelle de Roslyn ?
Eh bien, elles portent trois notes, si, do et la. Il a fallu 27 ans de travail pour que l'indice était donné par l'ange qui les montrait avec son doigt sur la portée, et puis par les figures géométriques. Donc, ça nous donne quoi comme mélodie ? Si, do, la. Voilà que si j'attaque sur ma note sensible, hein, si qui n'est qu'à un demi-ton du do et elle va tout de suite dessus. Dans ma gamme diatonique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, j'ai encore une fois ces deux accidents qui vont donner toute la dynamique à ma gamme.
Entre le mi et le fa, il n'y a qu'un demi-ton. Entre le si et le do, il n'y a qu'un demi-ton. Et le si, on l'appelle la note sensible parce que lui, il est très fortement attiré comme un aimant par le do. Donc la résolution du si vers le do, elle est complètement naturelle. Alors on part comme si on était dans une cadence parfaite. La cadence du cinquième degré au dernier qui conclut. Sauf que là, on reprend sur le la. Si, do, la. Et le la, il est fatalement la mineur. Et donc, il peut être aussi le la de fa majeur. Dans ce cas-là, j'aurai si, accord de sol, do, accord de do majeur, et puis la, accord de fa majeur. J'ai une cadence très intéressante. Comme au fond, comme un début, on a envie que ça se continue, cette phrase. On a envie d'aller, et oui. Comme si au fond étaient gravées dans la pierre les trois petites notes d'un chemin qui est infini, puisque c'est par le cycle de quinte qu'on va enchaîner. Regardez, si je reprends si, do, la, et puis qu'ensuite je reprends cet intervalle-là, la, si, sol, je reprends la dernière note comme ce fameux jeu des kyrielles. Et ça me donne un accord. Comme si, au fond, ils avaient voulu graver dans la pierre. Nous, on vous donne les trois premières notes et à vous de faire le travail suivant. Quand je vous dis que cette chapelle est un haut lieu d'initiation, c'est quoi l'initiation? C'est juste apprendre. On est initié à quoi? À un art, à la musique, à la peinture, à la poésie. Pour ça, il faut construire son chemin soi-même. Et là, ces trois petites notes nous indiquent la manière de commencer et la manière de finir aussi. Puisque en reproduisant ces trois notes-là, on va faire le voyage à travers les 12 tonalités. Et je vous rappelle que c'est en travaillant ces 12 tonalités que Charlie Parker s'est appelé Bird, puisque c'est grâce à ça qu'il pouvait improviser dans tous les sens. Maintenant, on va finir sur une note un petit peu plus proche de nous. Ça vous fait penser à quoi, ça? C'est Michel Legrand. Un été 42. Voilà tout ce qu'on peut faire avec les trois petites notes qui sont gravées dans les cubes de pierre de la chapelle de Roslin. Si, do, la. Waouh. Process along, I came to tempt fate. Ainsi s'achève cette émission qui a vibré formidablement sous l'archet majestueux de Fanny Beauvion, notre réalisatrice. Les vibrations étaient canalisées par l'ingénieur du son Grégory Wallon, Elsa Denac, la voix de l'ange qui nous envoyait des perturbations acoustico-cosmiques, et enfin Muriel Pérez à la programmation somptueuse de cette émission, comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.